Stadion, le top de la pop. Bonjour à toutes et à tous, Yannick Petit au micro pour La Ville de Lyon sur votre radio locale. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de ce magazine d'information locale avec aujourd'hui une invitée qui m'est chère, d'abord parce que c'est une amie. Je dois dire que parmi toutes celles et tous ceux qui sont passés devant ce micro de La Ville de Lyon, c'est peut-être celle que je connais le plus. Alors j'ai à la fois une certaine émotion et bien évidemment un plaisir à vous la présenter. C'est Priscilla Sureau. Bonjour chère Priscilla.
Bonjour Yannick.
Priscilla, effectivement, La Ville de Lyon, c'est le magazine d'information de Radion qui met en valeur, en avant, les actrices et les acteurs de la vie économique, politique, artisanale, associative, sportive. Je dirais que tu ne rentres pas facilement dans les cases et pourtant tu as toute ta place dans cette émission parce que tu es, à mes yeux, une voyageuse, quelque part aussi une aventurière, entre guillemets, dans la mesure où tu es native de Côte d'Or. Je vais te laisser la parole pour te demander de nous présenter. Je tiens à dire à nos auditrices et auditeurs que Priscilla est aujourd'hui devant le micro de La Ville de Lyon pour la simple et bonne raison, et ce n'est pas anodin. Durant 7 ans, elle s'est expatriée, elle a vécu au Mexique où elle a enseigné à des Mexicaines et à des Mexicains notre belle langue française. Alors je trouvais que c'était un périple et un épisode absolument magnifique. C'est la raison pour laquelle je l'ai conviée à venir devant notre micro. Priscilla, dans un premier temps, question traditionnelle qui ouvre La Ville de Lyon, je vais te demander de te présenter, de nous dire ton âge, quand bien même là je vais froisser peut-être les délicatesses et les convenances que je devrais avoir à l'égard d'une dame, nous parler un petit peu de ton enfance, te présenter à celles et ceux qui ont la gentillesse de nous suivre aujourd'hui.
Alors, je suis née pas très loin d'ici, dans un petit village, je suis née à Saumur en Auxois, en Côte d'Or donc. J'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Courcelles-Frémois, qui est situé à peu près à 7 km des Poisses. Alors, j'ai eu une enfance tout à fait classique, dans un petit village entouré de ma famille, puisqu'elle était composée essentiellement de la moitié de mes cousins, de mes oncles, mes tantes, et puis de mes grands-parents. Une enfance classique, à jouer dehors, à faire des cabanes dans les arbres, à aller à la rivière l'été pour se rafraîchir, au milieu des animaux, de la ferme, à jouer dans les bottes de paille, dans les greniers des voisins. Et puis voilà, je pense que toute personne à peu près qui a vécu dans un village a vécu les mêmes choses que moi. J'ai été à l'école primaire à Toutry et ensuite je suis partie faire le collège et le lycée à Saumur en Auxois avant de partir faire mes études de psychologie à Dijon.
Quelle collégienne, quelle lycéenne étais-tu ? Nous n'avons pas eu d'informations concernant l'âge de Priscilla, mais je vais dire qu'elle est née l'année où François Mitterrand a été élu pour la première fois président de la République. Voilà, comme ça.
Comme ça c'est dit.
Comme ça c'est dit. Encore faut-il savoir. Et quelle collégienne, quelle fillette étais-tu ? Quelle adolescente étais-tu ?
Alors j'étais plutôt une fille sage. Je pense que j'étais une collégienne tranquille, plutôt assidue dans mes études. Je me rappelle pas mes parents me dire que j'étais turbulente ou je ne pense pas leur avoir posé problème non plus. Je ne pense pas avoir fait de crise d'adolescence, la fameuse. Ça a été plutôt pour moi des années faciles. Pas trop de problèmes à l'école, voire pas du tout. J'ai quand même redoublé ma terminale avant d'avoir un bac ES à Avallon, d'ailleurs, parce que j'ai fait ma dernière année de lycée à Jeanne d'Arc à Avallon. Et voilà, je pense que pas grand-chose à dire sur cette époque.
Alors, quand bien même tu redoubles l'année de terminale, ça ne t'empêche pas de poursuivre ta scolarité à Dijon et tu choisis d'engager des études en psychologie.
Tout à fait. En fait, entre ma première et deuxième année de terminale, j'ai gardé une petite fille handicapée pendant les vacances, qui était la fille de mon médecin. Et à ce moment-là, j'ai découvert que c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. J'étais assez à l'aise, bizarrement, avec le regard des gens, le fait de m'occuper de cette petite fille. Et puis, je pense que ça a créé quelque chose, ça a révélé quelque chose en moi. Et donc, oui, en effet, j'ai décidé de faire des études de psychologie ensuite.
Alors, il est vrai que le cursus universitaire n'est pas tellement lourd en termes horaires, hein, 16 heures de cours par semaine. Tu découvres, comme toutes les étudiantes et tous les étudiants, la grande ville, parce que finalement, on a bien compris que l'enfance était une enfance rustique, campagnarde, bucolique,
presque.
Du côté de Courcelles-Frémois, donc non loin des Poisses. Et évidemment, tu découvres la ville, la vie étudiante, les soirées étudiantes.
C'est ça.
Un peu trop, peut-être.
Peut-être un peu trop. Oui, je pense que d'ailleurs, mes parents pourront nous le dire. Mais voilà, après avoir eu une enfance plutôt tranquille, c'est vrai que se retrouver à Dijon, d'être libre, j'avais mon appartement à Dijon, les cours de psychologie, c'était à peu près 15-20 heures par semaine, ce qui laisse largement le temps de sortir, voir les copains, découvrir un peu ce qu'est la vie.
Nocturne.
Tout à fait. Et Dijon a plutôt une bonne réputation pour ça en plus.
La licence de psychologie que tu préparais n'est pas validée.
Non.
Et il y a un épisode parisien.
Tout à fait. À la fin de mon DEUG, donc à la fin des deux premières années de licence, je pars terminer ma licence à Paris. Je décide de m'installer à Paris avec mon compagnon de l'époque. Et la vie parisienne est encore plus perturbante que la vie dijonnaise. Donc en effet, je commence à travailler également, puisque pour étudier sur Paris, il faut un petit peu plus de revenus. Donc je commence à être surveillante dans un collège à Saint-Paul, en plein cœur de Paris. Et en commençant à travailler, c'est vrai que les études passent malheureusement en second plan. Et donc, c'est un peu la catastrophe.
Alors, tu envisageais de devenir éducatrice pour les jeunes enfants. Tu tentes le concours. Bon, tu ne le réussis pas.
Non.
Et puis, il y a un voyage en Espagne.
Oui, qui va un peu de tout changer. Puisque après ce voyage, je fais une rencontre tout à fait par hasard d'un jeune homme qui s'appelle Quentin. Je le rencontre dans la rue, bizarrement. Et puis, il me présente d'autres amis à lui, dont un Juan, un Mexicain qui habite Poitiers, qui fait ses études à Poitiers et qui enseigne également à Poitiers. De cette rencontre naît une grande amitié qui va justement m'emmener jusqu'au Mexique.
Et on va en parler après la première pause musicale de l'émission. On fait un retour sur le parcours de Priscilla Sureau qui est aujourd'hui devant notre micro pour parler de ses 7 années d'enseignement du français au Mexique. On revient dans une pause.
Le top de la pop, le top de la pop, c'est sur Radion. You did wrong, should I stay and fight?
Merci d'être avec nous, c'est La Vie de Lyon sur votre radio locale. Aujourd'hui, nous sommes avec Priscilla Sureau pour parler de ce voyage au Mexique. Alors, cela nous ramène à novembre 2006, il y a maintenant 10 ans. Et tu quittes la France, Priscilla, et te voilà au Mexique, hébergé donc chez ce copain mexicain, Juan. Tu te retrouves en banlieue de Mexico, dans une localité...
Oui, dont le nom est très difficile à prononcer, Azcapotzalco. Donc c'est une petite... c'est tout en périphérie de Mexico. Alors Mexico, c'est très très grand, donc la banlieue est aussi très très grande. Donc je me retrouve en effet hébergée chez mon ami Juan, qui lui est donc rentré vivre au Mexique et qui m'avait proposé, donc quand je l'ai rencontré et que je lui ai parlé de mon voyage en Amérique du Sud, il m'avait gentiment proposé d'être hébergée chez lui pour débuter mon voyage. Ce que j'ai fait, donc je suis arrivée à Mexico en novembre 2006. J'y suis restée 2 mois et demi. Un petit peu plus longtemps que ce que j'espérais, mais je suis vraiment tombée amoureuse de ce pays, en fait, de cette ville, de ces gens et de cette culture. Et après, donc, ces 2 premiers mois où ça a été un peu compliqué, surtout au niveau de la communication, parce que je suis arrivée à Mexico avec un niveau d'espagnol qui était vraiment très très faible. Alors quand je suis arrivée, moi je pensais que je parlais très très bien. Et après quelques années, mon ami Juan m'a quand même avoué qu'en fait je disais difficilement 2 ou 3 mots en espagnol. Mais donc les 2-3 premiers mois ont été vraiment dédiés à apprendre correctement l'espagnol. Ça a été très compliqué, enfin très compliqué. J'avais des bonnes bases du collège et du lycée. Mais se familiariser avec l'accent, le vocabulaire, les premiers mois, j'ai eu des bons maux de tête.
Quelle a été la méthode de Priscilla Sureau pour devenir bilingue, puisque l'espagnol est ta seconde langue maternelle, d'une certaine manière?
Oui, je pense que la meilleure solution, c'est de se lancer, d'aller à la rencontre des gens, d'essayer de communiquer. Alors j'ai eu la chance de rencontrer les amis de Juan qui ont été très très patients avec moi, qui ont pris le temps. Ensuite, je pense que la télé est aussi un bon moyen de se familiariser avec la langue. Alors les fameuses telenovelas mexicaines m'ont beaucoup aidée, parce que le vocabulaire est quand même pas très riche. Et puis les films qui sont eux sous-titrés en espagnol aussi est un très bon moyen de faire la relation entre ce qu'on peut entendre et puis ce qu'on peut lire.
Concernant Mexico, Priscilla, je cite les chiffres que tu m'as confiés. Rappelons que c'est la capitale, bien sûr, du Mexique, que c'est une ville qui se trouve à 2000 mètres d'altitude et
fait.
Qui compte 26 millions d'habitants. Comment as-tu vécu, j'allais dire, ce choc, pardonne-moi, de culture, quand bien même il y avait eu l'épisode parisien, mais toi qui venais tout de même de la province française, arrivé dans une mégalopole comme Mexico, ce n'était pas anodin.
Alors, ce n'est pas anodin, et en même temps, on se rend compte que finalement, les distances ne se sentent pas autant que ça. Alors, on habite à un endroit et... on reste dans un cercle d'environ 10 kilomètres autour duquel on habite finalement. On se déplace à pied, en vélo, facilement. Après, en taxi, en métro, tout est assez accessible, même s'il y a beaucoup de monde et que les distances sont un peu plus grandes. C'est quand même assez accessible.
Après l'épisode géographique et urbain, épisode gustatif et gourmand, j'aimerais que tu évoques pour nous, Priscilla, la nourriture mexicaine avec ses spécificités et ses spécialités. Alors, à commencer peut-être par les tacos que l'on consomme en grande quantité.
Oui, c'est ce qu'on peut dire la nourriture de tous les jours. Alors, le tacos est formé d'une tortilla. Donc, une tortilla, c'est une espèce de galette, de crêpe faite à base de farine de maïs. dans lequel on peut mettre à peu près tout ce que l'on veut, de la viande, des légumes. Les Mexicains sont très friands de viande quand même, donc c'est souvent à base de viande. On peut mettre du fromage également, par exemple un tacos avec du fromage est une quesadilla, qui vient du mot queso, qui veut dire fromage. Et donc on a des quesadillas, on a des enchiladas, on a beaucoup de choses.
Alors j'aimerais que tu nous expliques ce que sont des totopos.
Alors les totopos, de la même manière qu'en France on utilise le pain un peu rassis pour faire du pain perdu, on peut réutiliser des tortillas qui sont un peu rassis, on les coupe en triangle et on les fait frire, ce qui nous donne des totopos. Et les totopos peuvent être mangés par exemple avec du guacamole. On peut en trouver en France, hein, aujourd'hui c'est assez répandu, ce sont des petits triangles comme des chips mexicaines. Et puis on peut aussi en utiliser pour faire un de mes plats favoris qui s'appelle les chilaquiles. Alors les chilaquiles, ce sont des totopos qui sont mélangés avec de la sauce tomate épicée, sur lequel on peut rajouter du poulet émincé ou des œufs au plat, et on mange ça au petit déjeuner.
Une nourriture très, très épicée et très pimentée.
Tout à fait, oui. Alors ils aiment beaucoup le piment, ils en mangent énormément et mangent vraiment des choses très très épicées. Les enfants ont déjà du piment par exemple dans les bonbons, donc ils s'habituent très très vite et c'est pour ça qu'ils sont très très résistants au piment.
En tout cas, résistez vous aussi, Priscilla et moi-même allons déguster quelques totopos et on vous retrouve dans une poignée de minutes pour revenir sur ces 7 ans de Priscilla Sureau passés au Mexique à enseigner le français. C'est la vie de Lyon. On se retrouve dans une poignée de minutes.
Le top de la pop, le top de la pop, c'est sur Radion. Radion.
La peine au fond d'une fiole, puisqu'on ne sera plus ensemble, si fier qu'on s'abandonne. On se ressemble, on se reverra pas. T'aimes tant te faire du mal. L'amour c'est comme ça, tout ne tient qu'aux détails. Alors j'écoute du Miles Davis et le temps passe. Puis on se lasse, prisonnier de mon spleen. La peine c'est pas du toc, des larmes de crocodile en fond Airbnb. Donne-moi de tes nouvelles. Si la nuit tu es seul, peu importe qu'on s'aime ou qu'on se fasse la gueule. Alors j'écoute du Miles Davis et le temps passe. On s'afflige de supplices, puis on se lasse. Ce fan, tout tes pétales. Alors j'écoute du Miles Davis des sujets.
90.5 et partout dans le monde sur radion.fr.
Maintenant que vous savez ce que sont les totopos, les quesadillas et les chilaquiles, qui, je l'espère, vous ont mis l'eau à la bouche. En tout cas, c'est la vie de Lyon. Nous sommes aujourd'hui avec Priscilla Sureau. Priscilla qui, pendant 7 ans, de 2006 jusqu'en 2013, a séjourné donc longuement au Mexique où elle a enseigné le français. Alors, je reste encore sur l'épisode gourmand et gustatif. Il y a des petites différences alimentaires. Le petit déjeuner mexicain est copieux, enfin ne ressemble pas tout à fait au nôtre.
Ils ont des journées qui sont assez longues puisque ils commencent à travailler à 7-8 heures du matin, plutôt 7 heures d'ailleurs, et peuvent terminer très tard, donc ils prennent un petit déjeuner qui est assez copieux. Alors ça peut varier, mais en général, oui, il y a toujours des œufs, des purées de haricots rouges, qu'on appelle frijoles là-bas, et toujours un café, une petite viennoiserie ou des choses comme ça. Mais oui, le petit déjeuner est assez copieux. Par contre, en revanche, le soir, et ils dînent beaucoup plus légèrement que nous, puisque il leur suffit d'un café au lait avec une petite viennoiserie ou du pain avec de la confiture.
Et tu as découvert un dessert particulièrement original là-bas au Mexique.
Ah bon?
Le fameux dessert, donc c'est de la sauce au chocolat épicé.
Ah, ce n'est pas un dessert.
Ah, c'est pas un dessert.
Ah, c'est pas un dessert. En fait, c'est un plat qui est fait à base de chocolat et d'épices, qui s'appelle le mole. Mais on le mange pas comme un dessert, même si c'est à base de chocolat. On le mange en plat principal avec du poulet et du riz.
Parfait, merci pour ces précisions. Il est clair qu'on aura du mal à s'habituer à cela en France tout de même.
Ah oui, je pense, oui.
Tu as bien mangé quand même ou tu as mangé parfois
Ah non, j'ai adoré.
Français ou toujours
mangé? J'ai adoré la cuisine mexicaine. Mais c'est vrai qu'un petit bout de pain et un petit bout de fromage font toujours défaut à la fin du repas.
Alors c'est pas tout cela, la nourriture mexicaine c'est une chose, mais notre jeune Priscilla Sureau à Mexico, hébergée par la famille de Juan dans un premier temps, il s'agit de trouver du travail. Alors comment fait-on quand on est française, que l'on a, disons, un bon niveau d'espagnol acquis au contact de la population, en lisant les médias, en écoutant la télévision et en regardant... les films anglais sous-titrés espagnols et les telenovelas, comment trouve-t-on du travail, Priscilla, à Mexico?
Je pense que c'est plus ou moins les mêmes techniques qu'en France. Finalement, on cherche sur Internet, on regarde dans les journaux, éventuellement du bouche à oreille, hein, c'est toujours bon. Et puis, c'est surtout l'aide de mon ami Juan, qui est toujours là, puisque j'ai pris une colocation avec lui ensuite, et il m'a aidé à chercher du travail. Et puis on envoie des CV, on se déplace, Oui, je pense que c'est plus ou moins les mêmes méthodes que l'on peut avoir ici, finalement.
Alors, une annonce qui t'interpelle, à laquelle tu réponds, tu es convoqué pour un entretien d'embauche, et là...
La grande surprise. Ah oui, puisque sur l'annonce, il était annoncé qu'il cherchait une réceptionniste ou secrétaire, donc c'était dans une école de langue. Je me présente, j'ai mon entretien, tout se passe très bien. Et à la fin de l'entretien, on me dit, écoutez, mademoiselle, c'est parfait, le profil correspond. Si vous le souhaitez, nous vous embauchons comme professeur de français. Et là, c'est vraiment la grosse surprise, puisque je n'ai jamais enseigné le français. Le français n'était pas vraiment non plus ma matière préférée à l'école. J'ai toujours eu des notes plutôt médiocres, on va dire, en français. Et donc surprise. Et puis, agréablement surprise, puisque finalement, on me donne la chance d'enseigner ma langue, de pouvoir aussi... transmettre un peu de ce qu'est ma culture, mon pays. Je suis formée pendant 15 jours. On me laisse carte blanche. Finalement, je rentre avec les autres professeurs, découvre les méthodes, les livres. Et après 15 jours, j'ai un test. On me fait rentrer dans une salle de cours avec des élèves. Les autres professeurs sont là, les dirigeants également, et on me dit de donner un cours comme je le donnerais tous les jours. Et ça a marché.
On reviendra sur cette expérience de l'enseignement du français à des Mexicaines et des Mexicains. Je rappelle que c'est Priscilla Sureau qui nous accompagne aujourd'hui dans la vie de Lyon. On se retrouve dans une poignée de minutes.
Le top de la pop, le top de la pop, c'est sur Radion.
Radion. Someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense. Now living my own life.
C'est Priscilla Sureau qui nous accompagne aujourd'hui dans la vie de Lyon. Vous le savez puisque vous nous suivez, je l'espère, depuis le début de cette émission. Priscilla Sureau qui a enseigné le français au Mexique pendant 7 ans, de 2006 jusqu'à 2013. Alors Priscilla, quelles ont été les difficultés rencontrées à la fois par les élèves pour l'apprentissage du français et par la jeune enseignante que tu étais?
Alors, les premières difficultés rencontrées par les élèves, finalement... Oui, je pense que le plus important, c'est la prononciation. Puisque la prononciation entre l'espagnol et le français... est complètement différent. Pour eux, c'est très compliqué de prononcer un « un » ou un « e » ou un...
Un « en », un « on ».
Exactement.
Les voyelles nasales.
Exactement, les voyelles nasales. Les « r » également. Les « gr ». Et parce qu'au niveau de la grammaire, de la conjugaison, c'est quand même assez... ça se ressemble avec le français, hein. Donc c'est vrai que pour ça ils avaient quand même moins de difficultés. Les difficultés pour moi, ça a été finalement d'arriver quelquefois à comprendre ce que voulaient les élèves, parce que j'avais quand même un niveau d'espagnol qui était bon, mais pas forcément complet. Et puis le système mexicain, on travaille du lundi au samedi, on a une semaine de vacances par an, c'est tout pour tout le monde la même, c'est Pâques. Donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué quand même.
Je reviens sur une réflexion que tu m'as confiée lors de la préparation de l'entretien, c'est que tu me disais que l'enseignement du français à ces Mexicains t'avait énormément apporté ou avait apporté un regard très particulier sur ta langue maternelle d'origine.
J'ai énormément appris. Je pense que en ayant enseigné ma propre langue, j'ai autant appris que mes élèves. C'est sûr. Ah oui. Puisque on découvre plein de subtilités finalement dans cette langue française et on n'en a pas forcément. On se rend pas compte en fait.
Est-ce que la culture française, notamment par le biais de ces écrivains, est-ce que tu as eu le sentiment qu'elle rayonnait auprès de ces élèves qui forcément manifestaient un intérêt évident pour le français puisqu'ils souhaitaient l'apprendre?
Oui, le français pour les Mexicains est une belle langue. Elle a une culture derrière d'écrivains, de peintres, etc. Ils ont une image de la France qui est très très bonne. Donc pour eux c'est assez facile de vouloir s'en imprégner.
On va vous laisser quelques minutes en compagnie d'une pause musicale et nous retrouverons notre invité Priscilla Sureau aujourd'hui dans la vie de Lyon, dans une poignée de minutes. À tout de suite.
Le top de la pop, le top de la pop, c'est sur Radion. C'est sur Radion.
De 2006 à 2013, elle a séjourné au Mexique, où elle a enseigné le français à de jeunes Mexicains. Ils n'étaient peut-être pas tous forcément jeunes.
Non, ils n'étaient pas tous très jeunes.
C'est Priscilla Sureau qui est aujourd'hui devant le micro de La Vie de Lyon. Priscilla, quel était ton salaire au Mexique?
Alors, un salaire mexicain, c'est pas grand-chose. Bon, il faut dire que le niveau de vie est quand même 3 fois moins élevé qu'en France. Donc, tout est plus ou moins relatif. Mais mon salaire tournait à peu près autour de 300 euros. Donc, en ayant un loyer, pour avoir un ordre d'idée, un loyer qui tournait autour de 100-150 euros. Un kilo de tortilla, par exemple, coûte environ 1 euro, on va dire, pour avoir un ordre d'idée un peu comme ça. C'est pas grand-chose, quand même.
Alors, quelle est la monnaie utilisée au Mexique ?
Le pesos. On utilise le pesos. À l'époque où j'y habitais, pour avoir 1 euro, il fallait environ 16 pesos. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Malheureusement, on est à 21 pesos pour 1 euro.
Rappelons, on l'a dit il y a quelques minutes, Mexico, donc la capitale, 26 millions d'habitants, une mégalopole située à 2000 mètres d'altitude. Alors, passons les problèmes de pollution. Juste dans l'esprit des Européens, le Mexique apparaît comme un pays un peu dangereux où la sécurité pose problème dans le quotidien de chacune et chacun.
Oui, tout à fait. J'ai eu beaucoup de réflexions. C'est vrai, quand j'y habitais et que je faisais des courts séjours en France, on me disait, mais c'est pas dangereux, Mexico, comment ça se passe, etc. Alors non, il ne m'est jamais rien arrivé en ces temps. Alors c'est vrai qu'il faut prendre quelques précautions. On nous dit de faire attention quand on prend un taxi dans la rue, qu'il faut mieux la nuit, par exemple, appeler un taxi sûr, ou éviter de se promener seul la nuit. Mais ça, finalement, j'ai envie de dire que c'est un peu comme dans n'importe quelle grande ville. Je me suis jamais sentie en insécurité à Mexico et au Mexique en général.
Tu étais une jeune femme d'une très jeune vingtaine d'années à ce moment-là au Mexique. Tu es toujours très jeune,
oui,
Priscilla, je tiens à le dire. En revanche, tu as été souvent incommodée par quelque chose qui t'a passablement perturbé au quotidien.
Oui, parce que c'est quelque chose qui, je pense, ne se retrouve pas en France. On est sifflé dans la rue, on est regardé vraiment d'une manière, on peut dire, déshabillé du regard. Et c'est vrai que c'est assez incommodant d'être en permanence comme ça, finalement. Espié, on va dire, c'est pas très agréable, c'est vraiment pas très agréable, puisque c'est pas que des sifflements, on a aussi droit à des mamacita de temps en temps, qui veut dire qui est pas très agréable, enfin c'est pas un très joli mot, on dira pas la traduction en français.
Ce sont tes plus mauvais souvenirs, regard des hommes mexicains.
Oui, je dirais ça. Et c'est vrai que quand je rentrais en France et que, pour le coup, je passais inaperçu, c'est là où je me rendais encore plus compte, en fait.
Alors, le temps passe très très vite dans La Vie de Lyon avec toi, Priscilla, pour parler du Mexique. Tu as eu l'occasion de découvrir un petit peu d'autres aspects du Mexique par quelques escapades.
Oui, tout à fait. J'ai quand même eu la chance de voyager un tout petit peu. Alors, le Mexique, c'est 5 fois la France, pour avoir une idée de la taille du pays. Donc, on voyage, mais il faut avoir un petit peu de temps pour voyager. Malheureusement, j'ai beaucoup travaillé. Et donc, j'ai voyagé surtout autour de la ville de Mexico. Par exemple, Teotihuacan, qui est un des sites archéologiques emblématiques quand même du Mexique. Des villes comme Guanajuato par exemple, l'endroit pour moi au Mexique qu'il ne faut surtout pas louper, c'est Tulum.
Tulum, alors c'est sur la côte des Caraïbes.
Sur la côte des Caraïbes.
Et c'est le paradis de Priscilla Sureau.
Voilà, pour moi c'est vraiment le paradis sur Terre. C'est situé à peu près à 2 heures de Cancun, au sud de Cancun. Je pense que les gens mettront plus un nom sur Cancun que sur Tulum. Voilà, c'est du sable blanc, de l'eau turquoise, chaleur toute l'année, une vie qui est vraiment vraiment agréable. On peut se promener en vélo sans aucun souci.
Notre invitée est pleine de courage et ne recule devant rien, et notamment devant les cénotes.
Alors oui, en fait, les cénotes sont des... Alors comment est-ce qu'on peut dire ? Ce sont des grottes souterraines qui sont finalement remplies d'eau. On peut passer d'un cénote à la mer, quelquefois même. Et c'est assez impressionnant parce que c'est situé en général au milieu des mangroves. Donc en surface, on voit de la verdure, et quand on plonge la tête dans l'eau, ce sont des branches, beaucoup de poissons, mais c'est très sombre. C'est un peu effrayant quand même. Moi, je l'ai fait, mais j'ai eu un peu peur.
En tout cas, on va quitter momentanément le Mexique pour une dernière pause musicale. C'est La Vie de Lyon. On y parle donc avec notre invitée Priscilla Sureau de Mexico. 26 millions d'habitants, une ville située à 2000 mètres d'altitude, et de ce grand pays qu'est le Mexique en Amérique du Nord, qui peut-être va avoir un regard différent sur les États-Unis suite à l'élection de Donald Trump. Il est évident qu'il est question de cette construction un peu systématique d'un mur entre les deux pays. Tu as des retours ? Est-ce que tu as toujours des amitiés là-bas au Mexique?
Ah oui, j'ai toujours des amitiés. J'y suis allée pas plus tard que cette année au mois d'avril, donc je conserve toujours ces amitiés. Et oui, mes amis mexicains sont un peu inquiets quand même suite à ces nouvelles élections.
Nous ne sommes pas inquiets parce que nous avons une invitée de charme et une aventurière devant nous. C'est Priscilla Sureau. On se retrouve dans un petit instant. On vous laisse en compagnie d'une pause musicale et vous êtes toujours sur Radion.
Le top de la pop,
le top de la pop,
c'est sur Radion.
Radion.
top de la pop, c'est sur Radion.
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 Avant de partir pour un nouvel emploi à Val Thorens, eh bien, elle fait une petite station à Radion, dans la ville de Lyon, pour revenir sur son passé d'enseignante de français au Mexique. C'était en 2006, il y a 10 ans, chère Priscilla. Oui. Tout se passe bien, finalement. Je sens que tu prends goût à parler devant un micro et tu as vaincu ton appréhension initiale. Oui. Alors, revenons un peu au Mexique. C'est un pays, effectivement, qui est très contrasté géographiquement parlant, puisqu'il y a, des montagnes, il y a des forêts tropicales, il y a bien sûr des plages paradisiaques, Cancun, ouais, etc., etc. Il y a des sites mayas, olmèques, toltèques et d'autres civilisations que j'ignore un peu.
Ouais, les Aztèques aussi.
Les Aztèques, bien sûr, fondamentales à ne pas oublier. C'est un pays de grand contraste qui allie modernité et tradition, et tu l'as constaté sur place.
Oui, et c'est d'ailleurs une des choses qui m'a beaucoup plu, c'est que les Mexicains sont quand même attachés aux traditions, conservent tout ce qui est médecine traditionnelle, rite un peu ancien, comme par exemple on peut trouver sur la place centrale de Mexico ce qu'ils appellent des limpieza. Donc limpieza en espagnol, ça veut dire nettoyage, et on peut faire des...
Alors c'est pas un nettoyage de peau.
Non, c'est pas un nettoyage de peau. C'est comme un nettoyage spirituel, on va dire, fait à base de fumée dans des petits récipients en terre à tête de jaguar parfois. Et puis, on prend des feuilles d'un certain type d'arbre, et puis il y a comme un chaman qui tourne autour de nous et qui nous fait cette limpieza. C'est assez impressionnant quand même.
Tu ne t'es pas offerte à une limpieza?
Non, je l'ai pas fait. J'aurais bien voulu éventuellement trouver un chaman et faire comme ça une procession avec quelqu'un, découvrir comme ça ce côté spirituel qu'ils peuvent avoir, mais j'ai pas eu l'occasion. Ce sera sûrement pour la prochaine fois.
Alors, il y a certaines personnes qui, pour ouvrir leurs esprits, mangent certaines plantes, oui, susceptibles d'aider à l'ouverture de l'esprit.
Alors, les anciens, les Aztèques ou les Mayas mangeaient, en tout cas les chamans, mangeaient du peyote. Donc, le peyote, c'est un mini cactus qu'on peut trouver dans le désert, qui est hallucinogène. Et pour les cérémonies religieuses, les chamans manger du peyote, ça permet une certaine ouverture d'esprit. Il n'y a pas que ça, il y en a plein d'autres. Ils en sont assez friands quand même.
Alors finalement, on dit parfois qu'en France, on consomme trop de viande et qu'un jour, il faudra peut-être consommer des insectes. Eh bien, toi, tu en as mangé au Mexique.
Oui, les Mexicains sont friands de chapulines. On va avoir un sacré dictionnaire mexicain ce soir. Chapulines, qui veut dire donc grillon. Ils mangent des grillons frits, on va dire, avec un peu de piment. Et en général, on accompagne ça avec un petit peu de mezcal ou avec un petit peu de tequila, mais plutôt du mezcal.
Tu m'as dit aussi que les Mexicains avaient des physiques plutôt enveloppés. Ils sont un peu,
oui,
un peu gras, un peu gros,
oui,
parfois, femmes comme hommes. Hein.
Oui, les deux. C'est vrai qu'ils ont tendance à avoir une alimentation qui est quand même assez grasse. Ils mangent très peu de légumes, beaucoup de viande. Ils sont finalement sur un système. Enfin, ils copient beaucoup les Américains. Donc, ils mangent beaucoup de pas forcément de hamburgers, mais voilà, un peu trop de gras, un peu trop de sucre, beaucoup de Coca-Cola. Ils sont très friands. Alors, par contre, ils boivent de l'eau de fruits, donc pour le déjeuner ou pour le dîner. Ils ne boivent pas d'eau, mais de l'eau de fruits. Donc on mixe des fruits avec de l'eau, on rajoute un petit peu de sucre. Mais c'est quand même sucré finalement, très peu d'eau plate.
Alors si les chamans et les Mexicains ont leur tradition, eh bien dans la ville de Lyon, nous avons aussi une tradition qui clôt toujours l'émission, ce sont bien sûr les 10 traditionnelles questions que je soumets à notre invité. Et c'est Priscilla Sureau qui va donc y répondre. Priscilla, quel est le principal trait de ton caractère ?
Alors je dirais jovial.
La qualité que tu apprécies chez les autres ?
La sincérité.
Le défaut qui t'insupporte chez quelqu'un ?
L'hypocrisie.
Sur une île déserte, qu'emporterais-tu ?
Alors un MP3.
T'es sûr, mais tu vas pas tenir longtemps avec ton MP3.
Oui, mais on va imaginer qu'il est auto-rechargeable.
Donc tu survis avec un MP3.
Je survis avec un MP3.
Très bien. La musique de ta vie ?
Alors ce sera Somewhere Over the Rainbow de Louis Armstrong.
Du jazz ?
C'est pas du jazz, mais c'est assez doux quand même.
Gentiment jazzy. Une héroïne ou un héros d'enfance ?
Astérix Obélix.
Tiens donc. Tu revendiques tes origines gauloises.
C'est exactement ça.
Un film marquant, un choc cinématographique ?
Alors ce sera un documentaire plutôt assez récent qui s'appelle Demain de Mélanie Laurent, je vous le conseille.
Une lecture inoubliable ?
Les 7 plumes de l'aigle de Jean Giono.
Ah, Jean Giono, la Provence. Ta drogue favorite ?
Ouh, le vin.
C'est amusant, tu sais, il y a quelques semaines est passé devant ce même micro Bernard Berryer qui produit les confitures à la Trinclinette dans le hameau de Trinclin qui est un hameau de Saint-Léger-Vauban et tout comme toi, il a ce même plaisir à savourer un vin.
Donc ça c'est la Bourgogne.
Sans doute. Tes origines alors gauloises et bourguignonnes, la boucle est bouclée. Et enfin terminons avec la femme ou l'homme que tu admires.
Alors ce sera Bill Mollison qui est le père de la permaculture.
Alors on n'a pas eu l'occasion, ni le temps surtout, l'occasion on l'avait mais on n'a pas eu le temps de parler de permaculture, c'est aussi quelque chose auquel tu es particulièrement attaché, tu es parti il y a quelques mois en Espagne et également dans les Pyrénées sur un chantier pour y construire une maison en paille.
C'est tout à fait ça, oui, j'ai découvert la permaculture, ça a un peu commencé au Mexique et je continue et c'est vraiment quelque chose qui me passionne, la construction écologique et la permaculture.
Ce sera sans doute l'occasion
pour une autre émission,
d'un autre rendez-vous radio dans la ville de Lyon. Merci Priscilla.
Merci
Sureau.
À toi Yannick.
Merci Priscilla d'avoir été, d'avoir été avec nous. C'était la ville de Lyon. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité, toujours sur.
Top de la pop, c'est sur Radion. Radion.